RCF.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de RCF en Berry pour votre émission du lundi à 11h30 et rediffusée le dimanche à 17h45. Le Berry se raconte avec Agora Défense pour témoigner de la vie militaire dans le Cher et en Berry, au travers de notre histoire de France. Aujourd'hui, un sujet immensément vaste que nous contenterons d'effleurer dans la perspective, pourquoi pas, d'autres émissions si vous le souhaitez. Le Berry et la Révolution française, plus précisément l'année 1789. Pour vous en parler, une habituée de notre émission, Françoise Trottignon, ancienne présidente de la Société archéologique et d'histoire du Berry, entre autres, que je me permettrai de caractériser, même si elle se fâche, de femme humaniste, dans le sens que ce mot avait à l'époque de Montaigne. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors Françoise, je sais que vous avez beaucoup travaillé pour cette émission et je vous en remercie. Ma première question sera la suivante. Les événements de l'année 1789 perturbent-ils notre ville de Bourges? Les armées royales doivent-elles intervenir ou la force publique?
Alors en préambule, nous dirons qu'il est impossible de comprendre les événements de 1789 sans savoir ce qui s'est passé les deux années précédentes. Lors de la réunion de l'Assemblée des notables, le 22 février 87, les comptes publics sont violemment attaqués. Et effectivement, ils sont en grave déficit. Et Lafayette, qui est auréolé d'une certaine gloire suite à ses activités américaines, attise l'opposition à Calonne, le ministre des Finances, et la transforme en une opposition à la monarchie, ce qui n'arrange rien. Parce qu'il règne une grave crise dans le royaume de France. Crise financière d'abord. Le déficit des comptes publics est de 20%, dont 23% à eux seuls représentent les dépenses de la cour. C'est-à-dire moins que ce qui est ressenti dans la population, mais c'est quand même 23%. Après, 50% de ces dépenses viennent de la dette. Brienne avait bien compris l'urgence des réformes, mais il n'a jamais pu les mettre en œuvre. Donc la crise qui sévit est grave. Elle est en partie la conséquence des traités qui ont été signés avec les États-Unis, puis avec l'Angleterre, ce qui fait que ces traités entraînent les prix français à la baisse, forcément du chômage. La crise a aggravé donc le chômage dans l'industrie et dans le commerce. Mauvaise récolte due au printemps humide et au grand froid, épidémie du bétail qui n'arrange rien, et la famine commence à sévir en province. Toutes les classes sociales s'agitent donc dans cette année 88 et cette agitation est en partie entretenue dans la région parisienne, à Paris, par le duc d'Orléans, Gaston d'Orléans, qui se ruine en libelle, qui distribue des pièces pour que les gens aillent manifester et crier des sornettes dans la foule, et qui essaye de répandre cette opposition au roi en province par le biais d'amis à lui, comme par exemple l'abbé de Bellabre et Seyès, et aussi des loges maçonniques. Donc, suite à cette agitation, le roi annonce la convocation des états généraux pour le 5 mai 89, avec au préalable la rédaction des cahiers de doléances. À Bourges, donc, les représentants des trois ordres, je répète ce qu'on a appris dans le temps primaire, le clergé, la noblesse et le tiers-état, on savait ça par cœur, dès le berceau pratiquement, se réunissent dans l'église des Carmes, c'est-à-dire place Cujas, et préparent la rédaction d'un cahier général et la désignation des députés du Berry aux états généraux. Alors, première chose, c'est que ceux qui ne seront pas désignés vont quand même l'avoir un peu saumâtre. Alors, d'une façon générale, dans ces fameux cahiers, ou tout au moins dans ceux qui nous sont parvenus, quand même 60 000 pour toute la France, on remarque que si le clergé et la noblesse s'expriment eux-mêmes, le tiers-état le fait par la main de ceux qui savent écrire, c'est-à-dire les curés, et que les paysans, eux, ne s'expriment pas directement. Donc, leurs doléances sont quand même passées au crible. Mais les remarques fondamentales sont l'égalité fiscale, la suppression des droits féodaux, est rarement réclamé, à l'exception du monopole de la chasse, qui est unanimement décrié. Le clergé souhaite une réforme de l'État, la noblesse veut aussi limiter l'absolutisme, mais ne veut pas renoncer à ses privilèges. Mais tous veulent que ça change. Alors ça ne va pas être facile de mettre tout le monde d'accord. Donc à la mi-89, il n'y a que trois solutions pour sauver l'économie, la banqueroute, l'inflation galopante ou des réformes. Les réformes, ni le clergé ni la noblesse n'en veulent vraiment, on vient de le voir. Quant au tiers, il est au début assez partagé. Remarquons que certains délégués, comme ceux d'Enrichemont, n'entendent se départir d'aucun des privilèges dont ils jouissent. Alors évidemment, les autres aussitôt les huent, et à l'unanimité, on les invite à se retirer. Donc, il y a quand même une grande volonté de réduire les privilèges. Donc, lors de la réunion des États généraux, le tiers État réclame le vote par tête. Et Necker n'en dit pas un mot, d'ailleurs. Et les notables refusent, bien sûr, et le roi finira par l'accepter. Cette lutte pour l'égalité des droits de vote, du 5 mai au 27 juin 1989, c'est le prélude à la révolution sociale, et annonce déjà la fin des privilèges qui est en germe dans cette demande.
Et à Bourges, rien de particulier. Est-ce que la population berruyère suit les événements? Est-ce qu'il y a des journaux, comme on a beaucoup à Paris? Non?
Non, alors il y a peut-être des petits billets.
Des petits billets,
qu'on distribue avec des gens à qui, d'ailleurs, chacun en distribue de son côté. Bon, le problème, c'est vraiment les troubles dus à la famine.
Oui, très
c'est
bien.
C'est ça.
Le Berry se raconte, Bernard Dupéra.
Vous êtes à l'écoute de RCF. Le Berry se raconte. Aujourd'hui, notre invité, Françoise Trottignon, qui nous entretient des berruyers et berrichons face aux événements de l'année 1789. Alors, pour être plus précis, justement, la prise de la Bastille, 14 juillet 1789, a-t-elle eu des répercussions dans notre Berry? Alors, autre question complémentaire qui va avec. Avons-nous connu en Berry ce qu'on appelle le phénomène de la grande peur, Françoise?
Oui. Alors, revenons sur la prise de la Bastille. Pourquoi la Bastille est-elle prise? Parce qu'on croit qu'elle est pleine d'armes et de munitions et de poudre que la foule veut prendre pour se protéger des troupes royales que le roi est censé avoir apportées à Paris, avoir amenées. Bon. En réalité, il n'est pas du tout question de mettre la monarchie à bas le 14 juillet. D'ailleurs, c'est un jour un peu au hasard. Donc finalement, la Bastille est prise et sa démolition, décidée sur le champ. D'ailleurs, les démolisseurs vont faire beaucoup d'argent avec ça parce qu'on va vendre un peu comme pour le mur de Berlin, un petit bout de la prise de la Bastille, oui, des petites maquettes, des petits souvenirs de la prise de la Bastille. C'est une affaire dont on n'a pas beaucoup idée maintenant. Hein. Mais la nouvelle de cette prise de la Bastille, symbolique, puisque ça représente la justice royale et les lettres de cachet, alors qu'en réalité, il y avait 4 faussaires, 2 fous et un noble débauché, donc pas grand monde à l'intérieur, elle n'est parvenue dans le Berry que le 26 juillet.
Ah oui, 26 juillet.
Voilà. Elle suscite un grand émoi, à Châteauroux, au Blanc, à Sancoin et à Bourges. Sur demande du maire Clément de Beauvoir, on célèbre un tédéum, donc il n'est pas question d'anticléricalisme à l'époque, et on allume des feux de joie assez recours. Mais ça ne va pas durer du tout, parce qu'aussitôt il y a des dissensions, surtout entre le clergé et la noblesse, qui n'acceptent pas bien d'avoir été exclus de la députation. Et cette agitation se transforme en une exaspération inouïe. D'autant plus inouï que la misère est à son comble, écrit l'intendant le 24 juillet 1989. Donc, pas d'argent pour payer les impôts, inondations, récoltes désastreuses, mortalité du bétail. On a fait des ateliers de charité, ça ne suffit pas. Les distributions de riz, ça n'a pas réussi à juguler la famine. Le blé atteint un prix excessif de 3 livres le boisseau à Bourges. Et fin juillet, le prix du pain de 12 livres coûte 1 livre 17 sous. Alors, la crise frumentaire est probablement aggravée par ceux qu'on appelle les accapareurs, qui entretiennent la pénurie pour vendre à la hausse, comme on sait.
C'est bien connu.
Hein. Et il faut envoyer à Bourges 50 cavaliers du Royal Piémont pour assurer la sécurité.
Oui.
Et il y a une émeute, donc la fameuse affaire Tourangin, place Gordaine, qui a envoyé des charrettes de blé à Vierzon pour juguler la famine de Vierzon. Et aussitôt, les gens l'accusent d'avoir enlevé du blé, de pain de la bouche des berruyers. Alors, on pille sa maison, il ne doit son salut qu'à la fuite. Les gens chargés de faire respecter l'autorité se rendent compte qu'il faut y aller doucement et que même la présence des troupes suffirait à attiser les désordres. Donc, il décide simplement de baisser le prix du blé, ce qui ramène le calme aussitôt. Donc, dès le lendemain, il y a des arrestations, des condamnations à mort par étranglement, ce qui est quand même très joyeux, et 2 au carcan. Mais les troupes refusent d'escorter les condamnés à mort. Donc, c'est une rébellion incroyable. Le Royal Piémont dit non. Et devant la tension générale, le présidial annule les peines de mort et le calme revient. Ouf, on a eu chaud, mais on ne va pas pouvoir éviter les troupes plus longtemps. 3 jours après la prise de la Bastille, se sont déjà répandues la nouvelle de la grand-peur.
Oui.
C'est-à-dire que On raconte à Sancerre qu'il y a 800 à 900 brigands qui arrivent par Cône et qui ont déjà ravagé toute Lyon. Au sud, c'est la même chose. Venant du Poitou, les gens du Blanc commencent à s'affoler et toutes les dépêches arrivent à Bourges. Mais Bourges dit « moi, je ne peux rien faire pour vous, j'ai déjà envoyé toutes mes troupes à Sancerre ». Donc, 3 jours après, les émissaires reviennent en disant qu'il ne s'était rien passé. Mais là, c'est la France presque entière qui a eu peur des brigands.
Le Berry se raconte, Bernard Dupéra.
Vous êtes à l'écoute de RCF, Le Berry se raconte. Aujourd'hui, notre invité, François Trottignon, qui nous entretient des Berruyers et Berrichons face aux événements de l'année 1789. Alors justement, Françoise, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce qu'on appelle le phénomène de la grande peur ?
Alors cette grande peur, ce sont des rumeurs qui ont fait état de brigands qui attaquaient aussi bien par la région de Cône à Sancerre que du côté du Poitou et de la Marche, où les habitants fuyaient, où on annonçait qu'ils avaient pillé, violé, incendié, tué tout le monde. Alors les premières troupes sont parties. Et évidemment, ils sont revenus, mais ça a eu aussi l'effet de créer des milices populaires. C'est-à-dire que branle-bas de combat, on sonne le tocsin, on s'arme de briques et de brocs, avec ce qu'on a, des vieilles pétoires, et tout le monde prend les armes pour guetter les brigands. Et évidemment, il n'arrive rien. Et cette grande peur a fédéré la population. Elle a eu un effet à la limite plus important que la prise de la Bastille, et a donné à la population un ressenti révolutionnaire, puisqu'à la limite, le pouvoir n'était pas capable de les protéger, on allait se protéger nous-mêmes, et pas se laisser quand même liquider. Donc il y a eu des comités locaux qui ont été créés, et tous les habitants sont convoqués sans considération de rang social. C'est-à-dire que paysans, bourgeois, marchands, nobles, tous. Et on fait un comité révolutionnaire, un militaire pour se défendre. Chaque quartier nomme des délégués à Bourges. Ils se renouvellent trop souvent, des fois tous les mois seulement. Et c'est la première création de la France révolutionnaire qui n'a pas, comment dire, une volonté de mettre le pouvoir à bas. Mais on s'accorde sur la disette, contre les brigands, mais on ne lutte pas du tout contre les magistrats et les détenteurs du pouvoir royal pour le moment. C'est donc un effet fédérateur de la population.
Merci Françoise pour ces explications. Dans la compréhension d'une petite partie de ces événements de l'année 1789, dans notre Berry, prélude aussi d'un nouvel ouvrage publié par Agora Défense, l'avenir nous le dira. Chers auditeurs, merci d'être fidèles à notre émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'histoire militaire de notre Berry et je pense que nous nous retrouverons pour l'année 1789. En effet, avec Françoise Trottignon, nous n'avons abordé qu'une petite partie et nous nous retrouverons pour la deuxième partie de cette émission sur l'année 1789. Merci et bonne journée à vous.
Merci.